les infos à Washington.
Talani, il est 13h en temps universel, 15h à Bujumbura, la capitale du Burundi. Bienvenue à ce bulletin d'information. Au Cameroun, l'avocat Akere Muna, qui avait retiré sa candidature à la présidentielle au profit de l'opposant Maurice Kanto, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour faux et usage de faux au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin, selon une décision de justice obtenue ce matin. Un tribunal de Yaoundé a jugé hier M. Akere Muna coupable de dissimulation de procédure et faux et usage de faux dans le cadre d'une affaire de gestion de l'héritage familial, selon la décision. Le tribunal de Yaoundé centre administratif l'a donc condamné à 3 ans de prison avec sursis pendant 5 ans. Et M. Muna est aussi condamné à payer 10 millions de francs CFA, soit 15 000 euros de dommages et intérêts, d'amende et des frais de justice d'un million de francs CFA, soit 2 000 euros. Ce jugement n'est pas définitif. Il peut faire l'objet d'un appel puis d'un examen par la Cour suprême si la Cour d'appel a confirmé la décision. Au Zimbabwe, l'opposition appelle au dialogue et à la formation d'un gouvernement transitoire d'urgence pour mettre fin à la crise politique et économique qui s'aggrave dans ce pays. Eric Manirakiza.
Selon Nelson Chamisa, dirigeant de l'opposition, la première chose à faire pour le pays est de s'engager sur le chemin d'un dialogue politique. Le leader du mouvement pour le changement démocratique, MDC, souligne ensuite que Harare a besoin d'une autorité transitoire nationale pour pouvoir résoudre la crise. Nous sommes prêts à discuter, a dit M. Chamisa, qui a indiqué avoir rencontré des responsables religieux qui réclament l'ouverture d'un dialogue politique entre l'opposition et le président Emmerson Mnangagwa. La crise économique et financière de 2008 a entraîné le pays dans une spirale d'hyperinflation. Les pénuries et les hausses de prix actuelles sont les pires depuis cette période. Les prix de nombreuses denrées de base ont plus que doublé en moins d'un mois. La situation dans les hôpitaux est préoccupante. Au moins 50 personnes sont mortes du choléra depuis septembre. M. Chamisa a déploré l'absence de leadership jusqu'à dire que la nation est orpheline.
Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les prisons à Madagascar. Des milliers de personnes sont maintenues en détention préventive injustifiée, excessive et prolongée dans des conditions qui mettent leur vie en danger. C'est ce qu'affirme cette organisation. Morgane Guiriec a joint Tamara Léger, qui est conseillère du programme Madagascar pour Amnesty International.
Les établissements pénitentiaires du pays comptent plus de personnes qui n'ont pas été condamnées encore, toujours en attente de jugement, que de personnes qui ont été condamnées. Plus de 50% des hommes qui sont derrière les barreaux, c'est 70% des femmes emprisonnées qui sont en attente de jugement, et chez les enfants, c'est carrément 80%.
Qui sont ces personnes? Pourquoi se retrouvent-elles en prison?
Une grande partie des personnes prévenues sont en prison pour des raisons qui ne justifient absolument pas une détention, et surtout pas dans des conditions telles qu'elles sont. Par exemple, chez les enfants et chez les femmes, il y avait beaucoup de prévenus qui étaient là pour des vols simples, un vol de poulet, un vol de vanille, pour des histoires d'escroquerie. La constitution même de Madagascar dit que la détention préventive doit vraiment être une exception.
Détention préventive qui peuvent durer très très longtemps apparemment.
La loi permet aux détentions préventives de durer plus de 5 ans chez les adultes qui sont accusés des crimes les plus graves et pour les enfants 33 mois. 600 enfants, c'est près de 700 qui sont derrière les barreaux, des conditions déplorables. Ils dorment à même le sol, dans des conditions surpeuplées. Ils n'ont pas accès à leur famille et pas accès à des avocats.
Sur ces conditions de détention qui sont particulièrement difficiles, il y a eu des personnes qui sont mortes en prison.
L'année dernière, il y a eu 129 personnes qui sont décédées, au moins. Et parmi eux, 52 étaient en attente de jugement. Donc c'est-à-dire que ces 52 personnes-là n'auront finalement jamais accès à la justice.
Alors comment expliquer cette situation?
Nos recherches ont montré que la plupart des magistrats semblent adopter une approche assez punitive, alors que dans le droit malgache, les alternatives à la détention existent. Et d'ailleurs, sur le papier, elles doivent vraiment être la priorité. Et en réalité, on voit bien que très souvent, les hommes, les femmes, les enfants sont mis en détention préventive en attendant leur procès.
Est-ce qu'il y a aussi un problème de moyens?
Le gouvernement a échoué à faire du système de justice pénale une priorité. Donc ce manque de moyens s'illustre par le manque de personnel. Hier, on était dans la prison de la capitale, dans une cour où il y avait près de 400 détenus et il n'y avait que 2 gardes.
En Algérie, l'Assemblée nationale a élu aujourd'hui son nouveau président. Mouad Bouchareb, 47 ans, a été choisi sans surprise par 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, les FLN, parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, qui détient 161 des 462 sièges à l'Assemblée. Unique candidat, il est également soutenu par les 100 députés du Rassemblement national démocratique du Premier ministre Ahmed Ouyahi et par ceux des deux partis de la majorité présidentielle. L'opposition a boycotté la séance. Mais à côté, le président sortant du perchoir, Saïd Bouadia, qui a 80 ans, lui-même membre du FLN, et en conflit ouvert avec la majorité parlementaire, se proclame légalement toujours en fonction, laissant craindre un possible imbroglio institutionnel. Il a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée nationale et dénonce une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le président américain Donald Trump s'est saisi de la progression d'un cortège de milliers de migrants vers les États-Unis pour replacer la question de l'immigration au cœur de la campagne des élections de mi-mandat pour galvaniser sa base. Le point avec Jacques Aristide.
C'est un as contre notre pays, a déclaré Donald Trump devant des partisans enflammés au Texas lundi. Le Texas, un État qui fait frontière avec le Mexique. Le locataire de la Maison-Blanche a donc repris le sujet de l'immigration qui était au cœur de sa campagne présidentielle en 2016. Le 6 novembre, les Américains sont appelés aux urnes pour renouveler le Congrès contrôlé par les Républicains. Ce sera l'objet d'une âpre bataille face aux démocrates. Le Parti démocrate encourage des millions d'étrangers illégaux à enfreindre nos lois et violer nos frontières et submerger notre pays, a accusé le président américain. Donald Trump affirme que des personnes originaires du Moyen-Orient se sont glissées dans cette caravane de migrants, ainsi que des membres du gang salvadorien ultra-violent MS-13. Exténués après déjà 10 jours de longue marche, les quelques 7000 migrants, majorité honduriens, se trouvaient hier dans le sud du Mexique, à quelques 1800 kilomètres du poste frontière américain le plus proche.
Affaire Khashoggi, les autorités saoudiennes n'ont pas autorisé les enquêteurs turcs à fouiller un puits situé dans le jardin du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul, scène du meurtre d'un journaliste critique de Riyad, a rapporté l'agence de presse étatique turque Anadolu. Les policiers turcs qui ont effectué 2 perquisitions donc dans le consulat d'Arabie saoudite depuis le meurtre de Jamal Khashoggi le 2 octobre, mais ils n'ont pas pu recevoir la permission de fouiller le jardin de la mission diplomatique et le puits qui s'y trouve. Et à propos de cette affaire, le président iranien Hassan Rouhani a déclaré aujourd'hui en Conseil des ministres que le meurtre odieux du journaliste saoudien Jamal Khashoggi est impensable sans le soutien des États-Unis. « Je ne pense pas qu'un pays ose faire une telle chose sans le soutien des États-Unis », a déclaré M. Rouhani dans une allocution retransmise par la télévision d'État iranienne. L'émissaire onusien pour la Syrie, Staffan de Mistura, est attendu aujourd'hui à Damas pour une visite destinée à lever l'opposition du régime syrien à la création d'un comité constitutionnel chargé d'élaborer une nouvelle constitution. Staffan de Mistura, qui a annoncé la semaine dernière qu'il quittera ses fonctions à la fin novembre, devrait rester quelques jours dans la capitale syrienne. Ce déplacement à Damas s'effectue à l'invitation des autorités syriennes. Le Kremlin s'est dit ce mercredi prêt à discuter d'une éventuelle visite officielle du président Vladimir Poutine aux États-Unis l'année prochaine, comme l'a suggéré le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton. Nous sommes absolument prêts à examiner une telle possibilité, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, mais il a toutefois précisé qu'aucune décision concrète n'a été prise à ce sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'au moins le Kremlin est déjà prêt à discuter d'une éventuelle visite officielle du président Vladimir Poutine aux États-Unis. C'est ici que nous mettons fin à ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter notre page internet voaafrique.com, mais aussi notre page Facebook, où vous pouvez réagir sur beaucoup de sujets d'actualité. Laissez vos commentaires et restez toujours à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Je vous retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.